Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous rencontrons aujourd'hui l'artiste Alice Gauthier. Alice Gauthier est une artiste visuelle franco-arménienne basée à Paris. Elle a d'abord fait ses études à l'École des arts décoratifs de Strasbourg jusqu'en 2012, puis au Royal College of Art de Londres jusqu'en 2014. C'est là qu'elle découvre également la lithographie sur pierre et part suivre la formation professionnelle de lithographie au Tamarind Institute pendant un an à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ces dernières années, son travail est passé de la mise en scène de figures et d'ombres en interaction à un regard plus abstrait sur les corps internes et les formes organiques. Combinant l'influence des sources scientifiques et encyclopédiques avec sa propre observation, Alice Gauthier cherche les frontières floues entre les faits et l'imagination. La lithographie est une technique centrale de son travail. Il s'agit d'une technique d'impression où l'artiste travaille sur la surface d'une pierre ou d'une plaque préparée avec des outils de dessin gras, crayon, encre, etc. Alice Gauthier s'intéresse particulièrement à la lithographie car elle nous permet une traduction très directe du dessin. Elle offre également une variété de marques et de textures ainsi que des combinaisons de couleurs et des couches subtiles sans fin. Écoutons maintenant Alice Gauthier parler de sa pratique et ses récentes expositions. Bonjour Alice.
Bonjour.
Ravie de t'accueillir aujourd'hui à Montpellier. Tu viens de Nice aujourd'hui.
Nice, oui. J'étais là-bas parce que j'ai installé pendant toute la semaine une exposition personnelle à la galerie Espace à Vendre. Et on a ouvert vendredi 8 décembre et ça sera jusqu'au 10 février. C'est une expo que j'ai appelée Éclat de nuit.
Et tu viens à Montpellier parce que tu as aussi une exposition collective ici.
C'est ça. Je me suis dit j'ai envie de venir voir et je connais pas non plus l'endroit ni la ville. Chez Clémence Boisanté. Donc là, Clémence a choisi 5 petits dessins avec de l'aquarelle, mais aussi de la gouache et parfois de l'encre. C'est une sorte de mélange que j'opère sur un papier très très lisse qui s'apparente presque à du papier de photographie. C'est vraiment quelque chose très lisse mais qui reste mat comme du Bristol un peu. Enfin, bizarrement parce que quand on travaille avec les liquides, on a tendance à se diriger vers des papiers absorbants, rugueux, d'aquarelle. Et là, en fait, en travaillant beaucoup avec les liquides depuis quelques années maintenant, je cherche en permanence des papiers. Et je suis devenue copine avec la marchande de papier à Paris, chez Sennelier. Et elle me montre des choses un peu différentes. Et ce papier-là me permet particulièrement des choses que je n'arrive pas à faire ailleurs. Et donc là, je travaille dans une gouache fraîche. Que j'applique dans un premier temps et ensuite j'y incorpore des gouttes ou des petites flaques d'encre ou d'aquarelle et je travaille en couches, un peu comme la peinture finalement. C'est
ce que j'allais te demander, est-ce que tu te sens davantage dessinatrice ou peintre? Parce que ces dessins, effectivement, quand on est devant ces petits formats, quasiment à 4.
Oui, c'est ça, ouais. C'est un 4, ouais.
C'est des aplats, des couleurs plutôt sombres. qui ensuite ont été travaillés avec des liquides pour justement laisser apparaître des effets de rencontres chimiques entre les différentes liquides utilisés. Et l'ensemble est travaillé de manière figurative. Après, ils apparaissent comme ça des mains, des têtes,
Ouais, comme une ligne d'horizon aussi, et une tête qui sort de l'horizon. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à dessiner, la figure était centrale et assez dépourvue de décor et de contexte. Je dessinais voilà, des figures humaines ou des bouts de petites scènes entre comme mes comédiens comme ça qui ils interagissent entre eux et on cherchait plutôt des moments de vie en fait et là de plus en plus aussi je pense par la qualité des matériaux qui agissent entre eux, je suis de plus en plus intéressée par l'aspect de la nature, de la cristallisation des roches, des racines qui se forment sous la terre qu'on ne voit pas et qu'on observe rarement, des choses mystérieuses aussi. Et donc je mêle de plus en plus ma figure et le vivant. Et c'est pour ça aussi que Clémence m'a demandé de lui montrer des choses parce que je pense qu'elle l'a vu. Enfin, ouais. Là, il y a une petite figure que j'ai appelée Lévitation. On la voit presque pas, en tout cas, on la devine, mais elle est surtout engloutie par l'eau et on se demande si tout va bien. Mais pour moi, ça va. Hein. C'est juste, au contraire, c'est une position de repos, mais. Ouais, la mer ou l'eau prend le dessus, c'est sûr.
Et les couleurs sont sombres, ils sont.
Là, c'est un papier noir, ouais.
Et est-ce qu'il y a un lien avec avec l'inconscient? Est-ce que c'est important pour toi de travailler à partir d'un endroit où il y a un lâcher prise? On a l'impression que c'est des dessins des rêves. Il y a quelque chose de l'ordre de la surprise et du hasard par la rencontre des matériaux. On a l'impression qu'après coup, il y a des figures qui apparaissent. Que toi, tu les découvres toi-même dans le dessin. Et c'est effectivement de l'ordre peut-être du subliminal.
Ouais, tout à fait. Bah là, d'ailleurs, ceux-là, je crois qu'au départ, il n'y avait pas de figure. C'était vraiment comme un paysage ou une coupe de la terre ou d'une roche au départ.
Alors là, peut-être on décrit ce qu'on voit. Alors c'est un autre dessin qui est montré chez Clémence Poissonté. Et c'est donc aussi un format. Voilà, A4. Et le titre est Dormir. Ça date de 2023. C'est de la gouache, l'aquarelle sur papier. Et le premier tiers inférieur. C'est du marron et du bleu et on dirait que le bleu il était absorbé par une autre couche qui est entrée dedans. Alors j'essaie de peut-être on parle mieux que moi.
C'est ça, ouais, j'ai laissé faire une sorte de migration du bleu à la fois dans le blanc, mais aussi dans la couleur qui se rapproche plus de la terre. Alors ça, maintenant, je le contrôle plus, mais au départ, pas du tout. Mais je laisse place au fluide je ne contrôle pas tout, c'est sûr. Mais dès que je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut garder, je le laisse et sécher.
Il y a un côté organique qui apparaît. Et puis dans deux tiers de la page qui est blanche, on voit une figure flotter sur des points. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ouais, bah, elle aussi, elle aurait pu s'appeler Lévitation, je trouve. Mais j'aimais bien que carrément elle dorme. Ouais, c'est ça, elle flotte. J'ai l'impression qu'elle est bien. Et qu'elle. Qu'elle observe aussi, ouais, j'aime bien aussi ce thème-là en ce moment, c'est juste la contemplation en fait, de regarder et prendre le temps.
Alors cette figure qui flotte comme ça dans l'air, ou qui est sur un nuage peut-être, elle regarde en haut, donc elle observe le ciel au-dessus d'elle.
Oui, je pense. Comme il y a cette ligne d'horizon comme ça qui est en bas du dessin, bah forcément au-dessus on pense au ciel. Mais c'est vrai que, enfin voilà, ouais, je pense qu'il y a de ça. Après tout ça, comme tu dis, je l'ai pas vraiment anticipé. Au départ, c'était un petit paysage, un petit dessin comme un départ pour la journée du travail à l'atelier. Et puis en y revenant, je trouvais qu'il manquait quand même un élément dans le dessin. J'avais envie d'une figure et ouais, elle s'est retrouvée dans le ciel.
Et ça t'arrive souvent d'avoir besoin de figures dans ta pratique?
Oui, mais c'est vrai que là, à Nice, justement, donc pour l'exposition dans la galerie Espace à Vendre, j'ai présenté des paysages et c'est assez atypique, enfin, c'est rare en tout cas que je ne présente pas d'éléments de la figure, de l'humain. Parfois c'est des mains, c'est juste des yeux ou quelque chose qui nous regarde, mais là il y a vraiment aussi que des formes et des lignes qui se rapprochent du paysage. Ils sont plus grands, ils font 50 par 70 cm.
Et c'est aussi ce papier lisse que tu as découvert chez ta marchande de couleurs, enfin de papier.
Ouais. Et j'ai travaillé avec un ami commissaire d'exposition qui s'appelle Jean-Marc Dimanche. Et tout de suite, je lui ai parlé de ma fascination pour la nuit, des couleurs assez éteintes comme ça. Et j'ai aussi écouté la musique d'une musicienne qui s'appelle Clara Isé, qui parle de la nuit. Son album qui vient de sortir s'appelle Océano Nox. Ça veut dire et la nuit qui s'échappe de l'océan. Rien que le titre, ça m'a vraiment, vraiment parlé tout de suite. Et après, sa musique, elle m'a complètement guidée dans le travail sur l'expo.
Ce serait peut-être bien de... écouter un morceau. Toi, tu choisirais quoi?
La maison, elle me bouleverse, cette chanson.
À l'entrée de la maison, je suis aux abois. Je vois tous les oliviers, il ne manque que toi. Voilà que je vais quitter l'endroit que j'ai aimé, que durant des années tu as foulé des pieds. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. J'ai perdu la joie de vivre, je l'ai laissée entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île, tes souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai perdu la joie de vivre, j'ai oublié entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île. souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi.
Et d'ailleurs, le thème de la maison, il est familier et je pense intime pour beaucoup de gens. Et tout simplement, parfois, je dessine des petites maisons. Enfin, petites. Disons que je les dessine très simplement dans la forme comme un enfant. Juste pour le symbole.
Alors, on n'a pas encore parlé de ce troisième dessin qui s'appelle...
Petite maison.
Petite maison. Et qui, voilà, qui parle effectivement de tes obsessions. C'est noir, c'est la nuit, c'est dont tu as parlé à l'instant.
Donc, il y a des visages dans les gouttes. Il y a une sorte de ciel et de terre sombre avec, qui se rapproche du noir ou du gris foncé. Et puis, il y a des grosses taches de blanc. Et dans ces taches-là, j'ai imaginé des petites âmes, des auras comme ça qui flottent et qui nous regardent. Assez bienveillantes, hein, c'est des visages assez doux.
Tu insistes pas mal sur le fait que tout ça c'est bienveillant et c'est doux, comme si tu voulais conjurer un sort, comme si on pourrait croire que ce serait le contraire. C'est vrai que ça pourrait aussi être interprété de façon plus sombre.
Bah ouais, c'est...
Parce qu'il y a du rouge aussi, tout sur quoi est posée la maison est rouge. Un peu comme des volcans dormants en dessous de la terre. Il y a un côté menaçant malgré tous les visages qui sont apaisés.
C'est vrai que là, on pourrait se dire ah, c'est peut-être des petits fantômes qui flottent au-dessus de la maison ou des nuages comme avec une forme de nuage, ce qu'on appelle une pareidolie. J'ai découvert ce mot il n'y a pas très longtemps.
Et ça veut dire quoi d'ailleurs, pareidolie ?
Bah c'est ça en fait, c'est ce phénomène où on décèle des visages, des animaux, tout ce qu'on connaît du réel, dans des formes beaucoup plus naturelles en fait. Donc le classique, ce serait de voir un petit chien en forme de nuage dans le ciel. Et ce que les enfants, et même j'espère les adultes, s'amuse à faire, mais ça peut être dans une roche. Hier, on était au musée asiatique de Nice, et il y a des pierres qui sont faites pour être contemplées en Asie, enfin, dans la culture aussi en Inde. Et ils regardent juste les pierres pour méditer et contempler. Et dedans, il y a des strates, des cristallisations, et on peut y voir des choses qu'on reconnaît.
Peut-être propre à notre cerveau de projeter ce qu'on connaît, des traces.
Ouais. Je pense qu'on a besoin des deux, on a besoin de reconnaître des choses, mais on a aussi besoin d'être fasciné. Et la nature, elle est là pour ça aussi, c'est qu'on ne peut pas la reproduire, on ne peut pas, même si on essaye de peindre une pierre, ça ne sera pas aussi beau. Donc il faut peut-être apporter un peu de folie.
Alice, tu peux nous dire un peu où tu as fait des études et avec qui, ou qui t'a marqué sur ce parcours-là ?
Ouais, j'ai tout de suite regardé le dessin dans les expos et les musées. Le travail sur papier, tout de suite, je suis attirée. Mais ça n'empêche pas, Je regarde ce qu'il y a devant moi, mais parfois on a tellement le choix aussi que... Alors j'étais à l'École nationale des arts décoratifs à Strasbourg. Ensuite j'ai voulu partir parler anglais et je suis allée à Londres au Royal College of Art. Et là, j'ai pas eu de profs dans mon parcours qui m'ont marqué, malheureusement. Mmh. Ouais. Et quand je parle avec mes copains aux Beaux-Arts et de Paris qui sont sortis, souvent ils mentionnent les profs là-bas. Et moi, j'ai pas eu ça. En tout cas, voilà, ça s'est pas trop passé. Mais par contre, j'ai plutôt été très très influencée, enfin marquée par une technique, c'est la lithographie sur pierre. Et donc, je me suis bien rapprochée des techniciens, mais on les appelle les techniciens, c'est terrible, mais ils ont aussi une pratique et une sensibilité folle sur l'art. Donc, on parlait beaucoup, et ils m'ont dit, nous, on a fait une formation de litho au Nouveau-Mexique, donc regarde, parce que c'est là où il faut que tu ailles. Enfin, et donc, je suis allée. C'était en 2015. De 2014 à 2015, pendant un an, j'ai appris la litho. Et là, on parlait beaucoup d'artistes, en fait, qui ont embrassé cette technique merveilleuse, enfin, magnifique.
Et... Tu es allée un an vivre au Nouveau-Mexique, ouais. Et on t'a accepté dans ce atelier
ouais.
En tant que stagiaire ou c'est
donc, Non, en fait, là-bas, c'est une formation et à la fois un atelier professionnel d'estampes, mais vraiment que de la lithographie. Donc, il y a un côté de formation. C'est pas diplômant, donc c'était tout à fait accessible. C'était pas des sommes folles. Et de l'autre côté, il y a des artistes de renom. Enfin, il y a Jim Dine qui est passé là, Kiki Smith, et bien d'autres. Ça fait plus de 50 ans que l'atelier existe. Mais qui, au départ, était... Le savoir était en France et en Allemagne, et tout ça, c'était en Europe. Mais une femme, June Wayne, qui est tombée amoureuse de cette technique, a apporté le savoir aux États-Unis. Et elle tenait à pouvoir former des gens, des jeunes. Et là, on était 7 femmes à apprendre la lithographie sur pierre.
Incroyable.
Donc aujourd'hui, avec mon amie, qui est artiste aussi, on a voulu avoir notre presse et nos pierres dans notre atelier pour pouvoir en faire quand on veut et quand on a besoin. C'est très proche du dessin et je pense qu'en dessinant sur les pierres, on nourrit le dessin et la peinture de façon très très folle.
Il y a une spontanéité.
Oui, en même temps, on passe du temps à grainer les pierres. C'est une préparation qui est physique, lourde et donc il faut dépasser ce travail assez laborieux au départ. Pour pouvoir être spontané sur la pierre.
Oui, oui, effectivement, il y a ce long travail de préparation, encore une fois, assez proche de la peinture. Mmh. Et puis après, il y a ce geste peut-être très rapide crée l'œuvre. Hein. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce temps de
préparation.
Oui, ouais. Le temps passé à s'imprégner, à se concentrer aussi.
Oui, ouais, tout à fait. Mais... Ouais, donc c'est assez drôle que pendant mes études, c'est plutôt à ça que je pense qui m'a assez bouleversée.
Oui, donc donc tu as une formation comme ça qui t'a près de personnes qui ont travaillé la pierre et la lithographie et ensuite tu t'es installée à Paris.
Oui, en 2015. Ouais, ouais, c'est ça.
Et tu as un atelier lithographique qui était personnel, que tu ne vois pas aux autres.
Non, ouais, c'est mon atelier et puis de temps en temps je donne des cours dedans.
Quand même,
avec des gens qui viennent pour une journée. C'est voilà. Bah j'y tiens à montrer et à tenir le coup. Ouais. C'est vrai que c'est une technique difficile, mais que je tiens à partager, donc j'hésite pas si on me dit est-ce qu'on peut venir avec une classe ou te voir faire une démonstration, ça oui, avec grand plaisir.
On veut bien venir.
Ouais, après c'est sûr que moi je peux pas imprimer pour les autres artistes.
Bien sûr. Ouais. Ouais. Et donc aujourd'hui tu es installée à Paris et tu sillonnes donc la France avec des expos personnelles et collectives.
C'est récent, hein, c'est vraiment tout récent ça. Mm. C'est chouette.
Ouais. Et au quotidien, ton travail se partage aussi avec un travail alimentaire ou tu
J'ai la chance là de donner des cours si j'ai besoin et de travailler sur ma pratique et de travailler avec des galeries. Donc ça c'est formidable, mais c'est pas stable, ça c'est
oui,
sûr.
Oui. Donc à part Clémence, il y a aussi une galerie à Paris peut-être qui te représente ou ailleurs
hein. Ouais, depuis peu je travaille avec la galerie Édition Dilecta, qui sont assez, très sensibles aux livres, mais qu'on connaît pour les livres et les éditions qu'ils font sur des monographies d'artistes. Mm-hmm. Mais depuis quelques années, ils se concentrent aussi beaucoup sur le travail d'artistes contemporains et la galerie et des foires et tout ça. Donc là, en mars, on va faire Drawing Now à Paris ensemble pour la première fois. Et puis d'autres projets, je pense.
Merci beaucoup.
Merci à toi, merci.
Grammaire fantôme.
Merci d'avoir été à l'écoute de Grammaire fantôme. À la semaine prochaine.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Thank you.